Bonjour tout le monde, je m'appelle Wendy Mackay et merci de venir à cette cours sur interaction avec l'ordinateur. Et c'est la première leçon qui est, on va parler des capacités humaines pour l'interaction. Alors, comme j'ai dit dans la leçon inaugurale, moi je travaille avec l'interaction humaine-machine. Et on travaille avec les capacités humaines, il y a la partie perception, cognition, action. Il y a aussi la partie de l'ordinateur, c'est le stockage, le calcul, l'entrée, sortie. Mais qui nous intéresse le plus, c'est l'interaction entre les deux. Et nous, on parle de ça comme un phénomène qu'on peut étudier et contrôler. Alors, pour ça, il faut comprendre qu'il y a une boucle d'interaction entre l'être humain qui peut parler, faire des gestes. Après, c'est interprété par les capteurs de l'ordinateur, comme le clavier ou le micro. Il y a un processus de calcul et après, il crée les sorties avec un écran, une enceinte. Et après, nous, on les écoute ou on voit et on fait le processus dans le cerveau. Et après, ça continue et c'est une boucle continue. Alors, la première leçon, parle de les capacités humaines, la perception, la cognition, l'action. Et le deuxième, alors c'est bon, le deuxième c'est les autres parties sur l'ordinateur. Alors on prend une approche pluridisciplinaire. Ça veut dire c'est pas juste une partie scientifique, il faut aussi parler de la partie ingénierie et design. Et aujourd'hui on va parler de deux parties, principalement la partie scientifique, mais aussi une partie design. Je veux juste dire que moi, j'ai une expérience un peu diverse et variée. J'étais formée en psychologie et après, j'ai fait l'informatique et après, j'ai travaillé beaucoup avec les sociologues et les anthropologues. Ma mère est formée en art, mon père était formé en ingénierie et j'ai vu toujours des perspectives différentes de chaque discipline. Et ce qui m'intéresse avec l'interaction humaine-machine, c'est qu'on a besoin de toutes les perspectives, même si il y a des perspectives qui sont en conflit de temps en temps. Alors, c'est quoi les capacités humaines? On peut étudier par les physiologistes, les psychologues, les sociologues, les anthropologues et aussi tous les artistes, les gens qui font la conception et aussi les artistes tels que. Alors, si on regarde les sciences humaines, on peut parler des scientifiques qui sont les psychologues. Et eux, normalement, ils travaillent avec l'être humain dans le court terme. C'est une personne à la fois. Bon, il y a les psychologues sociaux qui travaillent avec quelques personnes ensemble, mais la plupart du temps, c'est les psychologues individuels et qui travaillent avec l'individu individuel. Les sociologues travaillent avec plus de monde, avec plus de temps. Ça peut être une population assez grande. Et c'est pour comprendre les groupes de personnes et comment ils interagissent l'un avec l'autre. Et les anthropologues s'intéressent à plus long terme, et c'est plus au niveau de culture, comment on peut créer la culture et quelles sont les différences de culture entre les gens. Alors, ça, c'est jusqu'au ça, c'est l'approche scientifique. Et chacun d'eux sont les scientifiques qui fait un va-et-vient entre la théorie et l'empiricisme. Ils observent les gens. Des fois, les psychologues commencent normalement avec une théorie qu'ils testent avec une expérience, ils continuent. Ou les anthropologues qui commencent avec l'observation de l'être humain ou les gens dans des situations différentes et ils créent des théories. Mais il y a toujours un phénomène naturel qui existe à part et c'est les scientifiques qui l'observent. L'approche artistique, c'est un peu différent. C'est les gens qui veulent créer. Créer des choses. On peut être peintre, musicien, chorégraphe. Et l'idée, c'est de créer quelque chose d'artistique. Mais pour ça, il faut aussi comprendre le spectateur, mais dans une manière différente, avec une procédure différente. Alors, par exemple, pour étudier les couleurs, si je prends de l'approche scientifique, je peux conduire les expériences contrôlées pour regarder, par exemple, la perception visuelle. Ici, on a un test qui est créé pour détecter si quelqu'un est daltonien. Pour la plupart vous, il y a en trois, on peut voir, en vert, mais il y aura des gens dans ce public et, qui ne peuvent pas le voir parce que c'est difficile pour eux, pas de voir la couleur, ils peuvent bien voir la couleur, mais de distinguer entre le rouge et le vert. Et ça, c'est important pour l'interaction humain-machine parce que 9% d'hommes et moitié pour cent de femmes à cette caractéristique. Alors, il faut faire attention dans la conception pour savoir ça. Mais on peut aussi regarder la perspective ou apprendre des choses intéressantes de la perspective artistique. Par exemple, un peintre peut explorer l'effet de couleur pour provoquer les réactions émotionnelles. Je donne l'exemple de Claude Monet avec Impression sous le vent. C'était l'une des raisons qu'on utilise le mot impressionnisme. C'était au début un insulte, mais maintenant c'est une bonne chose. Alors, si on regarde cette image, on voit le soleil et ça donne l'impression, il sort, voilà, il est brillant. Mais en fait, si on mesure scientifiquement, on peut dire, avec un photomètre, on peut voir que la même luminance, le soleil a la même luminance que le ciel. Les bleus et verts sont de même luminance. Alors, il a trouvé comme artiste comment communiquer cette émotion, cette impression avec la couleur, mais sans tester avec un photomètre. C'est une approche complètement différente. Et nous, en interaction humain-machine, on apprend des deux. Je donne juste un autre exemple, juste pour donner un peu cette perspective. On peut étudier l'attention. Alors, il y a la possibilité de travailler comme neuropsychologue qui conduit les expériences pour mesurer l'activité du cerveau avec les EKG, ou le parcours de regard. Je peux regarder vous et vous pouvez détecter où j'ai regardé, à qui j'ai regardé. Il y a des exemples, il y a plein d'exemples dans les sciences, mais une expérience, par exemple, peut être la tâche, double tâche. Et on peut donner une tâche à quelqu'un, il concentre sur cette tâche, et de temps en temps, il y a un signal qui arrive et il faut faire une autre chose, par exemple, avec le pied. Il tape rouge ou vert, si à gauche ou à droite. Et dans cette situation-là, on peut regarder la réduction de performance pendant cette distraction. Mais il y a des autres gens qui travaillent avec l'attention, les artistes. Par exemple, un magicien explore comment distraire l'attention des spectateurs pour créer des effets magiques, ce qui est une bonne chose, ou peut-être, oups, pour les abuser. Par exemple, il y a le truc avec un bonnetto et il y a une série de gobelets. Et on met la balle, on demande au spectateur de mettre la balle dans l'un des trois et bouge les choses. Et c'est très facile pour l'artiste de distraire le spectateur et cacher où est la balle. Alors, avec ces compréhensions, les styles, les approches différentes, on peut informer notre conception des systèmes interactifs. Alors, on a besoin des deux et on a des contributions différentes et des fois, les contributions sont en conflit. Je donne un exemple. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était dans une époque très intéressante, c'était juste avant la création de Macintosh, de Steve Jobs et Apple, dans les années 80. Et on a créé le premier système mondial de mettre la vidéo sur l'ordinateur. Et dans mon équipe, j'avais une équipe diverse et variée. Il y avait les informaticiens, les ingénieurs, bien sûr. Aussi les psychologues et les autres qui travaillent sur la science. Et j'avais aussi un groupe de designers. Il y avait un, et j'ai croisé un jour, et il y avait un grand débat entre trois personnes. L'un qui était la personne qui a conçu les livres, et un typographe. Et pour lui, il faut organiser l'information sur l'écran par le sens de lecture. On commence en haut et à gauche et on traverse comme ça. Deuxième, c'était un producteur de vidéo. Et à l'époque, les écrans étaient assez petits et un peu flous. Et pour ça, il faut centrer le visage de la personne au centre de l'écran. Et troisième personne était un photographe et quelqu'un qui fait les films documentaires avec une résolution beaucoup plus haute. Et pour lui, il a travaillé sur les règles de tiers, il y a la diagonale, on peut bouger comme ça, mais on n'est jamais au centre. Alors, on a les trois perspectives différentes et tout le monde dit « j'ai raison, je connais bien mon discipline et c'est ça comme il faut organiser des choses ». Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on met les trois ensemble pour créer un site web ? Et il y a des conflits qui viennent. Et on est bien formé pour lire les livres, regarder la télé, voir les films, et les trois sont ensemble. Et c'est compliqué. Alors, si, voilà. Et voilà, ça c'est la partie à la fin. OK. Alors, le problème, c'est la réalité complexe. Les êtres humains sont complexes. Il n'y a pas un seul moyen de présenter cette information et de comprendre comment le cerveau, le corps marche. Ça ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment communiquer avec les êtres humains et des fois faire des compromis. OK. Maintenant, je vais parler un peu sur la partie physique de l'être humain, la perception. Et ce qui est important de comprendre, c'est la sensation, ça veut dire l'impact des informations du monde réel sur le corps n'est pas la même chose de ce qui se passe dans la tête, la perception de l'information, ce qu'on a. Alors, si on prend la perspective d'un physiologiste, on regarde par exemple les photons qui excitent la rétine derrière l'œil. On regarde les ondes qui peuvent vibrer les cils auditifs dans l'oreille et les réactions des récepteurs tactiles. Si je prends la partie d'un psychologue qui s'intéresse à la perception, on regarde comment on peut interpréter ces réactions. Alors, on voit des images, on ne voit pas les photons, on voit les images. On écoute les morceaux de musique, pas les ondes, et on touche et on peut comprendre les textures, pas les récepteurs. Alors, autre chose, comme être humain, on est très sensible. Si on regarde la vision dans le noir complet, on peut voir une chandelle à 50 km de distance. C'est énorme. L'audition, dans le silence total, on peut entendre le tic-toc d'un montre à 6 mètres. Et pour toucher, on peut sentir un cheveu sur la peau. Mais on a une large gamme de sensibilité, de noir presque complet jusqu'au plein soleil, de tic-tac de la montre jusqu'au avion qui décolle et de la caresse d'un coup de poing. Et c'est important de comprendre qu'on a cette vaste diversité et variée. Et pour l'instant, les ordinateurs sont rarement, en fait, ils n'ont pas cette variation dans un seul truc. On est trois, soit très sensibles ou à quelque chose. Voilà. Alors, si on regarde le canal visuel, on a deux types de récepteurs. Il y a une surface 2D, on ne perçoit pas le 3D directement, c'est toujours en 2D et c'est créer la 3D. Trois dimensions. Les cônes sont pour percevoir la couleur et c'est dans la zone focale, au centre de la vue. Le deuxième type de récepteur, c'est le bâtonnet et ça, c'est pour percevoir le noir et blanc. C'est une gamme beaucoup plus large, un espace de vision plus large et c'est plus rapide, on peut voir le mouvement. Si vous voulez tester quelque chose, regarde devant vous et mettre la main comme ça jusqu'au moment que ça disparaisse. Et si vous bougez les doigts, vous pouvez le voir. Vous pouvez essayer. C'est un peu difficile avec les voisins, il ne faut pas taper la personne, mais si vous êtes dans l'île, faites ça jusqu'au moment que ça disparaisse, juste à ce point, et bougez. Et vous pouvez normalement voir, même si vous ne pouvez pas voir. Alors, c'est les récepteurs différents. Et si vous voulez regarder dans le ciel pour voir les étoiles, il ne faut pas regarder directement à l'étoile, regardez à côté et vous allez voir mieux parce que c'est noir et blanc. Et, voilà. Et ça, c'est important pour nous comme êtres humains parce que le danger arrive dans le périphérique et ça bouge. Alors, il faut courir. Alors, on est moins sensible. Voilà, j'ai dit ça. Alors, pour la vision binoculaire, on a deux yeux et on utilise plus d'autres indications pour détecter la 3D. Il y a quelque chose qui est intéressant, qui s'est fait au début de la dernière siècle, c'est les lois de Gestalt. Gestalt, c'est un mot allemand, et c'est pour la psychologie, pour voir enfant. En fait, il y a plein d'objets autour de nous, mais pour la perception, on les voit comme des formes continues. Et il y a plusieurs principes, par exemple, la clôture. On regarde un cercle vert, même si il y a beaucoup de morceaux, de segments, mais on le voit comme un cercle. Et la proximité crée des groupes. Les deux groupes de bleu, point bleu, et pas juste un série de bleus. On regarde la similarité, on regarde les couleurs, les formes, et on peut créer des choses. Il y a aussi la distinction entre le fond et la forme. Ça, c'est en haut à droite, il y a soit deux visages ou une vase. Et on ne peut pas regarder les deux en même temps. Il y a un changement entre les deux. Et on peut regarder le fond ou la forme. Il y a un principe de continuité et aussi le destin commun. Regarde les petites mains qui pointent dans un sens. On voit les toits en haut différemment que les toits en bas. Et on peut utiliser ça pour la conception. Si on applique la proximité, la similarité, la continuité et la clôture, chaque fois, on peut organiser des choses et on peut les mettre ensemble pour faire un ensemble cohérent. Okay. Il y a aussi les illusions visuelles. Ça, j'aime beaucoup, c'est l'effet bien connu, le Müller-Lyer effet. Et en fait, les deux lignes sont exactement la même longueur. Et si je peux prouver, si je fais ça, ils ont l'impression que l'un qui est en haut est plus long que l'un qui est en bas. Et si j'enlève les petites flèches, ça change. Alors, regarde. Et voilà. Alors, je peux prouver. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de psychologues qui regardent les illusions pour comprendre comment ça marche et comment tricher. Alors, au niveau du canal auditif, ce qui est important de comprendre au niveau de la perception, c'est qu'on entend les sources de sons et pas les sons eux-mêmes. Les sons arrivent comme les ondes, comme ça, mais si je fais ça, ça c'est... Excusez-moi, si je fais ça, vous entendez la source de ce bruit. Et on peut aussi masquer les sons. Il y a les sources qui sont trop proches, ou les fréquences qui sont trop proches, qui peuvent masquer les sons, on ne les entend pas. Et les artistes utilisent ce phénomène pour nous tricher. Par exemple, ça c'est Edgar Bergen, et il est un ventriloque avec sa marionnette, et il peut donner l'impression que c'est la marionnette qui parle, et pas lui, il reste avec la bouche fermée. Je ne suis pas Edgar Bergen. Mais bon, il est très fort et moi non. Mais c'est difficile et on peut jouer avec ça. Alors, c'est encore un autre exemple où les artistes utilisent ces phénomènes pour nous tricher. Il y a assez peu d'illusions auditives, mais je vais donner un qui rassemble un peu ce qu'on voit avec l'art de M.C. Escher. Ça, c'est le fontaine d'Escher qui donne l'impression que l'eau coule infiniment. C'est juste, si on regarde dans les morceaux, ça a l'impression que c'est descendre. Et alors, si ça marche, on peut faire le même effet audio. Ah. Qu'on peut tricher l'espace auditoire pour faire cet effet. Alors, on change la chaîne haptique qui est aussi très importante. Il y a le toucher, il y a la proprioception et la kinesthésie. Alors, pour le toucher, on a 6 types de récepteurs. En fait, il y a plusieurs, plus que ça, mais principalement, on peut détecter les différences de chaleur, le froid, la douleur, pression, vibration et texture. Ils ont aussi détecté récemment qu'on peut détecter les caresses. Ça, c'est différent que toucher comme ça. Une caresse, c'est quelque chose de spécial pour nous. Il y a la proprioception. Et ça, c'est notre compréhension de notre corps nous-mêmes dans l'espace. Et on peut utiliser pour percevoir, par exemple... Je vais juste donner l'exemple de la femme ici. Si je ferme mes yeux et je mets mon main en haut, je peux toucher l'autre. Voilà. Si je mets un objet, s'il y avait un objet en haut, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de proprioception pour savoir où il est. Et j'utilise mon corps pour comprendre. Je peux aussi utiliser le toucher pour comprendre la forme d'un objet. Je peux, si j'ai cet objet-là et je ne regarde pas, je peux comprendre plein de choses si je le bouge dans ma main. Si juste le touche, ce n'est pas beaucoup, mais si je bouge dans la main, je peux. Alors, kinesthésie, c'est plus la tension de muscles et on utilise pour évaluer le poids, la résistance d'un objet. Alors, je peux dire que ça, c'est un peu plus lourd que ça. Voilà. Et on a aussi un sens de partie kinesthétique, il y a le sens d'équilibre, ça c'est l'orientation dans l'espace, et ça, c'est, ça vient de l'oreille, c'est pas le cerveau comme ça, c'est dans l'oreille. Et ce qui est important pour faire le funambule sur le son de fer, ça c'est, on prend, c'est multimodal, on a besoin de la partie visuelle, kinesthétique et vestibulaire, les choses sont en combinaison. Ce n'est pas les chaînes séparées, mais les choses qui viennent ensemble. Et c'est important aussi pour la conception des systèmes interactifs. Par exemple, avec la réalité virtuelle, on a les casques où on utilise ces propriétés. Mais s'il y a un déséquilibre, les divergences entre les signaux, on peut créer les malaises. Et en fait, c'est pire pour les femmes. Ils ont testé les casques pour les hommes et ils n'ont pas constaté que le système visuel des femmes, c'est un peu différent. Il y a beaucoup plus haut de problèmes avec mal de mer avec les casques pour les visuels. Alors, s'il y a les femmes qui n'aiment pas les casques de réalité virtuelle, il y a une raison pour ça. OK. Alors, ce qui est important, ça, c'est la partie prendre l'information, recevoir l'information, mais il faut l'action. Alors, on a un système moteur qui contrôle les mouvements de corps, ça c'est de marcher par exemple, ou les actions physiques comme tirer une corde. Il y a aussi les gestes et les mouvements de main et bien sûr la voix. Et pour contrôler les membres du corps, il y a quelque chose qui s'appelle la chaîne cinématique. Et chaque segment sont articulés. On commence avec le bras, l'avant-bras, la main et les doigts. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que cet effet nous donne la possibilité de faire les mouvements de grande amplitude jusqu'aux mouvements très précis, parce que chacun prend le contexte pour l'autre. Et Yves Guihard, comme j'ai dit dans la leçon inaugurale, a parlé de... Il a regardé les actions bimanuelles. Et pour lui, il y a la main non dominante, pour moi c'est la main gauche, et la main dominante, la main droite. Et en fait, ce qui se passe, c'est la main non dominante définit le contexte. Ici, je positionne le champignon pour le couper. Et ça, c'est un mouvement précis avec la main droite. Et l'autre fait le truc. Et le fait qu'on a une chaîne cinématique avec le bras, c'est que le membre non dominant devient au-dessus du membre dominant. Ça marche dans la même manière. Il y a aussi des choses pour la prédiction. On peut anticiper la façon dont on va imaginer interagir avec un objet. Regarde les deux verres. Vous pouvez savoir, si on regarde quelqu'un qui prend une verre comme ça, on va le boire. On va. Mais si je prends comme ça, ça veut dire que je vais le tourner et le mettre dans le placard. Et les indices sont intéressants pour l'interaction humain-machine parce qu'il y a des petites choses qu'on fait qui préviennent ce qu'on va faire après. Et si on peut détecter ça, on peut aider les gens à faire ce qu'ils voulaient faire dans l'avenir. Claude Cadoz a parlé de trois fonctions en général du canal gestuel. Il y a la partie épistémique, c'est comment on peut utiliser le toucher pour accueillir l'information. Il y a la partie ergotique, ça c'est quand on est en train de le poter qui touche l'argile pour transférer l'énergie, pour interagir avec. Il y a la partie sémiotique, ça c'est pour transmettre la communication comme conducteur d'orchestre qui communique avec les gens et nous on fait comme ça. Ok. Il y a quelqu'un très important dans notre domaine qui est Paul Fitts qui a fait la loi de Fitts. Ce qu'il a fait, il a fait une tâche très simple. Il a regardé le pointage et il a observé une relation entre la taille du cible et la distance du cible. Et il a calculé que le temps de mouvement peut être bien prédit par la distance entre ma main et la cible et la taille de la cible. Il y a deux constants A et B qui sont déterminés empiriquement. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est la partie invariante ici. Ça veut dire le pointage d'une cible deux fois plus grande à une distance plus longue va prendre le même temps. Alors, il y a des invariances. Ça, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est vrai. Et il y a ce genre de choses où on peut prédire le pointage et on peut comprendre comment ça marche. Aussi important, c'est le couplage entre l'action et la perception. Ils sont bien couplés. Si je veux interagir avec un objet, il faut percevoir pour agir. Alors, le geste est guidé par la vue. Ici, il va attendre le verre. Mais il faut agir pour percevoir. Il faut toucher l'objet pour comprendre qu'est-ce que c'est. Il y a une expérience très bien connue par Heldenhain. C'est le carrousel des chatons, les pauvres. Alors, les petits chats étaient levés dans le noir total. Et après, il les a mis dans cette carrousel. Il y avait un chaton qui bouge, qui pousse le carrousel, et l'autre qui doit finir. Il ne peut pas bouger, il est dans une petite basket. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils avaient exactement la même expérience visuelle, exactement la même expérience jusqu'à ce moment, mais le chat qui peut bouger lui-même peut voir normalement. Et le chat qui ne peut pas bouger était aveugle, vraiment aveugle. Alors, heureusement pour les petits chatons, ils ont mis le chat dans un environnement où il peut apprendre normalement et il a récupéré la vision. Mais ça a montré vraiment le lien entre l'action nécessaire pour comprendre et percevoir le monde. Ce n'est pas quelque chose innate, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Alors ça nous donne la théorie écologique de la perception de James Gibson. Alors ce qu'il a dit, c'est que la perception est directe. Il y a beaucoup d'informations autour de nous et on prend cette information directement. Mais par exemple, pour la perception visuelle, il y a le petit oiseau qui vole et il a toutes les infos autour de lui. Et il y a la perception du flou optique autour de lui. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il extrait les invariantes et c'est ça qui nous donne la possibilité de comprendre ce qui est autour de nous. Comme on a vu avec la loi de Fitts, il y a aussi les autres invariants qu'on peut percevoir. Par exemple, si je lance un objet à un chien, le chien ne fait pas des tonnes de calculs dans sa tête. En fait, ce qu'il va faire, c'est de garder l'angle constant avec la direction de déplacement de l'objet. Et s'il reste dans cet angle constant, ça c'est invariant l'angle, il peut attraper l'objet sans problème. Alors on est tous en train de toujours trouver ces invariants dans le monde autour de nous pour comprendre ce qui se passe. Et il a aussi introduit le mot affordance, c'est souvent assez mal compris, mais bon, c'est la capacité d'action des objets de l'environnement pour le sujet. Si moi, je suis de taille correcte et j'ai assez de force, je peux pousser cette cylindre, je peux monter dessous, je peux me mettre en dessous. Et tout ça est lié avec la relation entre l'objet lui-même et moi et mon corps. Alors, les affordances sont créées par la relation entre le sujet et l'objet. Il y a aussi sa femme, Eleanor Gibson. Elle est un psychologue qui travaille avec les enfants. Et elle a montré comment on peut apprendre les affordances. Parce que les affordances, si on parle de Gibson, ils existent. Et mais ce n'est pas toujours nous qui peut les percevoir. Et ça prend du temps pour percevoir les capacités d'action données par les affordances. Elle a fait la falaise visuelle. Et en fait, pour un enfant de 6 mois, il peut regarder cet espace, il y a une verre transparente. Pour l'enfant, il peut voir la falaise et il ne veut pas bouger. Même si les affordances réelles sont, et c'est absolument possible pour lui d'aller chez sa mère, mais il ne veut pas, il s'arrête parce qu'il commence à percevoir qu'il y a une falaise. Il ne faut pas tomber. Et c'est ça qu'elle a montré, qu'on peut développer ces méthodes pour percevoir ces affordances. Alors imaginez que vous avez des outils dans le monde. Il y a un marteau. Et le marteau, il est rigide, il a un poids spécifique, c'est fait pour clouer. Alors ça marche. Et si je vois un marteau, je peux apprendre très rapidement comment l'utiliser. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de marteau? Je peux regarder les autres objets autour de moi pour voir s'ils sont possibles de faire la même chose. Alors je peux prendre une chaussure et le talon a les mêmes propriétés nécessaires, c'est assez rigide avec un poids suffisant et je peux clouer avec la chaussure. Mais on peut aussi renverser des choses dans l'autre sens. Je peux regarder le marteau et dire pas pour clouer, mais pour mesurer quelque chose. Je peux l'utiliser comme un règle si la taille est correcte. Et l'idée, c'est nous, on est très facile. Ça, c'est l'une des choses qui nous distingue des autres animaux. On peut regarder ces possibilités d'action dans les objets et on peut créer les outils autour de nous. Alors maintenant, je passe sur la cognition. Et il y a vraiment une gamme vaste, et je vais toucher juste un petit peu de chaque truc, mais on parle d'attention et mémoire, apprentissage et motivation, prise de décision, intelligence, émotion et créativité. Alors, pour l'attention, c'est important de penser qui tire l'attention. Alors, si vous connaissez déjà, je vais montrer un exemple, mais si vous ne connaissez pas, ne dites pas à vos voisins. Alors, je vais juste aller. Voilà. Je pense. Ça commence.
Ouais. The monkey business illusion.
Désolé, c'est en anglais. Mais juste.
Count how many times the players wearing white pass the ball.
Regarde les joueurs en blanc et combien de temps ils passent le ballon. Et essaye de tirer l'attention. Voir qui a combien de fois compté. Et la question, c'est combien est-ce que quelqu'un...
The correct answer is 16 passes.
Voilà. Mais, en fait, combien de vous qui n'a pas encore vu cette vidéo, parce que c'est bien connu, est-ce que vous avez regardé ce petit gorille au centre? Il y a beaucoup de monde. OK. Mais il y a des gens qui n'ont pas vu, n'est-ce pas? Parce que l'idée, c'est si on est en train, si l'attention est tirée à combien compter, on ne voit pas les autres choses. Et ça, c'est l'attention est sélective. Les notifications peuvent être passer inperçu. Il y a aussi, on utilise ça, ce qu'on appelle l'effet de cocktail party, c'est on peut concentrer sur l'information souhaitée et filtrer les informations superflues. Et c'est très important qu'on peut faire ça. Alors, par exemple, avec beaucoup de bruit d'une fête, je peux prêter attention à une conversation, mais si quelqu'un à part dit mon nom, je vais tirer mon attention et je vais parler avec lui. Et c'est juste, il y a toujours les filtres qui cherchent les informations qui sont importantes. Il y a, avec les téléphones, les smartphones, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on appelle le multitasking, être multitâche. Et en fait, non, on ne peut pas le faire. On passe rapidement entre les tâches. On n'est jamais fait la même chose en même temps. Et ce qui est intéressant, il y a les études qui ont regardé comment les gens qui sont très fiers de leur capacité de faire plein de choses en même temps, ils ont comparé des gens avec les autres qui essaient de faire une tâche à la fois. Et ils ont fait les études où ils ont introduit les distractions. Ils ont trouvé le fait que, en fait, les gens qui sont les fiers d'être multitâches sont plus facilement distraits par l'information que les gens qui peuvent concentrer à une chose. Alors, pour vous qui n'aimez pas les téléphones qui utilisent ça, vous êtes moins distraits que vos collègues. Et ça, c'est dangereux pour traverser la rue d'utiliser. OK. Pour la mémoire, le cerveau, on utilise, on encode, il y a l'encodage et le rappel. Et en fait, il y a plusieurs moyens de mémoire pour encoder l'information qui arrive. Il y a la mémoire sensorielle qui est très immédiate. Il y a la mémoire court terme, ce qu'on appelle la mémoire du travail. Et il y a une faible capacité. Il y a 4 chunks ou morceaux d'information. Ce n'est pas beaucoup. Et une courte durée de 10 à 30 secondes. Et s'il faut mémoriser une liste de choses, il faut répéter pour se souvenir. Et la mémoire à long terme, il a la capacité infinie. Ça veut dire qu'on ne sait pas les limites. Et une durée illimitée. Mais l'accès est associatif. Ça veut dire qu'on crée les associations pour mieux se souvenir. Il y a beaucoup de types de mémoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un sujet énorme. Mais il y a quelques aspects qui sont importants pour nous en interaction humain-machine. Le fait qu'on peut se souvenir les faits, les principes, les idées. Il y a aussi, ce qui est super important, c'est la partie épisodique. Nous, le processus d'encodage, c'est lié avec les histoires. On aime les histoires situées dans le temps. Et le plus important pour nous sont les choses autobiographiques. C'est plus facile de se souvenir les effets qui arrivent avec nous. Et il y a aussi le procédural, les choses qu'on fait avec plein de répétitions. Mais il faut faire attention parce qu'il n'y a pas un enregistrement direct de nos mémoires. C'est toujours reconstruit par le rappel. Et les souvenirs changent selon le contexte. Et je montre les prisonniers, où bon, il y a un qui est prisonnier et d'autres qui ne sont pas. Et ça, c'est assez difficile pour détecter le visage de quelqu'un dans un contexte comme ça. Parce qu'il n'y a pas de contexte autour et ça change vraiment. C'est plus difficile de distinguer les visages comme ça que dans un contexte réel. Alors, on peut utiliser le contexte pour améliorer la véracité. Et voilà. Il y a aussi l'oubli. Les choses qu'on a vues au début sont plus faciles à se souvenir que les choses au milieu. Et les choses qui sont le plus récentes sont plus faciles. Alors, si vous voulez que quelqu'un se souvient quelque chose dans ce talk, il faut que les choses que j'ai introduites au début sont bien, les choses à la fin vont être bien, et la partie au milieu, on verra. OK. Ebbinghaus a créé le courbe d'oubli, et c'est juste ce qui est remarquable, hein, c'est immédiat, si on a 100% de rétention, après 20 minutes, ça diminue beaucoup, c'est 58%, et après une heure, c'est moins de 50%. Alors, ça diminue rapidement. Alors, il faut répéter ou faire des choses pour associer l'information, pour retenir des informations plus long terme. Il y a aussi un principe qui est important pour nous en IHM, c'est la différence entre le rappel et la reconnaissance. Si vous regardez à droite, vous pouvez dire que si je demande le mot anglais pour piscine et je fais ça, il faut que vous travaillez plus. Il faut déjà se souvenir de ça. Mais si je donne une liste de possibilités, c'est plus facile. En fait, la bonne réponse, c'est poule. Alors, ça, c'est recall, ça veut dire, excuse-moi, rappel, et ça, c'est reconnaissance. Et si on regarde les téléphones portables, ils utilisent ça, il a des icônes, il a des choses, il nous montre des choses, et ça, c'est bien, c'est plus facile. Mais le problème, c'est le rappel est beaucoup plus sain. Si je parle avec vous, imaginez si je dois parler avec vous et je dois choisir chaque mot d'une liste de mots, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais le fait que je peux rappeler comment parler en français, un peu, et créer les informations, c'est beaucoup plus puissant. J'ai plus grande possibilité d'expression. Alors, je change encore. On a un autre truc, c'est behaviorisme. Et ça, c'était bien connu dans les années 60-70. Et en fait, ça revient maintenant dans les économiques behaviorales. Les économistes et les gens qui gèrent les grandes entreprises comme Facebook sont les maîtres de behaviorisme. Alors, je pense que c'est important d'expliquer un peu comment ça marche. Alors, B.F. Skinner a parlé de comment on peut prédire et contrôler le comportement humain. Il a parlé des aspects positifs, par exemple, pour faciliter l'apprentissage, et aussi, il y a les aspects négatifs pour, par exemple, créer les comportements addictifs. Alors, comment ça marche? On veut juste, on parle de modification de probabilité d'un comportement. Et on peut gérer le comportement par donner, soit dans une manière positive, je donne quelque chose qui peut être positif, un renforcement, ça s'appelle le renforcement positif. Je peux aussi donner une punition. Ça veut dire donner quelque chose, un claque de fouette. Ça, c'est aussi positive punishment. Punir positif. Et quand je retire quelque chose, ça peut être aussi positif pour l'utilisateur ou négatif. Alors, de retirer quelque chose qui est embêtant, ça veut dire éteindre l'alarme, ça, c'est négatif, renforcement négatif. Parce que je tire quelque chose, mais le résultat est positif. Ça veut dire que je renforce la probabilité de l'action. Et je peux aussi prendre quelque chose de positif de quelqu'un comme punition, comme le petit bonhomme dans le coin qui est triste. Bon, désolé, j'ai fait ça. Et voilà, ça c'est... Il ne peut pas interagir avec ses collègues et ses copains. Alors, il est triste parce que... Et ça, ça marche comme une punition. Ok. Et il y a ce qu'on appelle les programmes de renforcement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut contrôler comment on perçoit la probabilité qu'un renforcement va arriver. Et si je change l'intervalle, qui peut être fixe ou variable, ou le temps entre les renforcements. Et le résultat pour ça, on peut contrôler les choses pour, par exemple, aider un enfant à apprendre de jouer au piano. Et pour elle, elle doit répéter des choses pour trouver les comportements automatiques. Et sans attention automatique, on juste les fait automatiquement. Et ça, c'est une forme de mémoire procédurale. Mais on peut aussi créer les addictions. Et les médias sociaux sont très forts à faire ça à cette époque et utilisent les principes de behaviorisme. Un petit like, le petit pouce, peut augmenter petit à petit le comportement et les gens veulent continuer et commencent à chercher les likes et ils restent toujours attirés par le système. Et ça peut contrôler le comportement. OK. on doit aussi prendre les décisions. Alors, une chose que je trouve très intéressante, qui a bien influencé des gens dans les années 80, c'est le travail de Lucy Sachman de l'action située. Et elle donne l'exemple de navigation. Et elle a observé que l'être humain n'agit pas toujours selon le plan préétabli. Je peux faire un plan et dire je vais faire ça. J'ai le plan de cette présentation et c'est planifié. Je sais ce que je vais dire. Mais tous les détails changent. Je peux regarder les visages, je veux voir si je veux continuer un peu plus ou quelque chose. Je change mes actions. Alors l'action, la vraie action, c'est située. Et c'est, le plan est revisé dans le temps. Alors pour le petit bateau qui arrive ici, le plan de navigation, c'est d'aller entre point A et point B directement. Mais il y a un gros rocher, il y a des vagues, il y a le vent qui arrive. Et en fait, le vrai trajectoire, c'est comme ça. Ça, c'est le chemin suivi. Et le fait que nous pouvons réagir dans le contexte, ça veut dire que si on va créer les systèmes interactifs, il ne faut pas penser que l'utilisateur va toujours suivre le plan prévu, mais il y aura tous les contextes qui vont changer les choses et il faut faire la conception avec ça en tête. Il y a aussi les différences entre les novices et les experts pour la résolution de problèmes. Par exemple, s'il y a une erreur, on peut commencer avec un état initial et c'est ça ce que je veux faire et je pense que je vais aller là-bas pour atteindre ce but. Mais si je suis novice, je fais une erreur, ça c'est la partie rouge, et qu'est-ce que je peux faire comme novice? J'ai une toute petite gamme de possibilités, la seule chose que je peux faire, c'est de revenir, c'est de défaire et recommencer à zéro. Si j'ai plus d'expérience, je peux peut-être essayer de réparer l'erreur et aller à l'état attendu. Et si je suis expert, j'ai des autres possibilités et je peux juste oublier l'erreur et aller directement au but. Et encore une fois, si on va concevoir les systèmes interactifs, il faut savoir que les novices et les intermédiaires et les experts ont des stratégies et des possibilités différentes pour résoudre des erreurs. Il y a aussi les biais cognitifs. Et en fait, c'est donné toujours dans une manière assez péjorative, c'est comme les êtres humains ne sont pas rationnels. Et il y a l'idée dans l'économie en général, c'est l'homme rationnel et les êtres humains ne sont pas très rationnels. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, si on regarde les biais cognitifs, ça c'est les choses qui ne sont pas rationnelles pour les raisons diverses et variées. Et Wikipédia dit qu'il y a 185 différentes, et ça augmente, ça continue. Mais je vais juste choisir quelques-unes. Il y a Tversky et Kahneman qui a fait une série d'expériences qui montrent que l'on ne fait pas toujours le meilleur choix dans le sens mathématique. Par exemple, il y a le biais du présent. Si je préfère, est-ce que je préfère de prendre 150 euros maintenant ou d'attendre un mois et avoir encore 30 euros, 190. Et au niveau mathématique, c'est évident, il faut prendre le 180, mais la plupart des gens préfèrent d'avoir l'argent 150 maintenant. Mais si je demande la même différence mathématiquement, dans un an, 150, ou dans 13 mois, 180, les gens vont dire, oui, je prends le 180. Parce qu'on est déjà décalé dans le temps. Mais ce qu'ils ont observé, c'est qu'en fait, il y a des autres choses qui arrivent. Il y a une partie aversion au risque. Ça veut dire, j'ai plus peur de perdre que les gains. Ça, c'est bien d'avoir les gains, mais j'ai beaucoup plus de peur de faire les pertes. Alors, nous, on a des réactions émotionnelles par rapport des choses qu'on a choisies. Il y a aussi les biais de confirmation. En fait, si on regarde les utilisateurs en ligne, il y a une partie, ça on peut, je peux faire la réalité, ça c'est les faits, le monde réel, et ça c'est ce que je pense moi. Et la question c'est si je vois les évidences qui sont en conflit avec ce que je pense, j'ai la tendance de dire non, c'est pas intéressant. Et s'il y a quelque chose qui confirme ce que je crois, j'ai la tendance de dire oui, ça c'est bien. Et en fait, la superposition est survalée. Je pense que c'est très important. Alors ça s'explique un peu la situation, ce qu'on a maintenant avec les médias sociaux, où les gens ont la tendance d'écouter les gens qui parlent de même manière que eux, et ils écoutent plus les gens qui disent la même chose. Et ça, on a cette idée de fake news. Dernière chose, c'est le biais de cadrage. La présentation des résultats peut influencer nos choix. Par exemple, il y a des designers et on donne les données là. Ça veut dire qu'il y a 4 utilisateurs sur 20 n'ont pas troublé par la fonction de recherche. Et si je donne au designer ce résultat, on dit que 50% dit que oui, il faut refaire ça, parce qu'il y a déjà 4 utilisateurs qui peuvent le faire, et ça, c'est pas bien. Et il y a qu'un quart qui disent non, et un quart qui dit je ne sais pas. Mais si je présente les mêmes informations un peu différentes, si je dis 16 sur 20 ont trouvé la fonction de recherche, maintenant, il y a beaucoup moins de monde, maintenant c'est un peu plus d'un tiers, pas la moitié, qui pensent qu'il faut concevoir le système. Et il y a plus de monde qui pensent que bon, c'est OK. Alors c'est exactement la même information, mais présentée différemment. Et voilà. Et la dernière chose sur les biais cognitifs, il y a le biais d'ancrage. La décision dépend souvent avec ce qu'on a vu avant. Alors, le groupe A a vu cette groupe de points et il pose la question, est-ce que rouge et bleu sont différés ici? Ça, c'est le cible. Et on pose la question. Alors, ici, ils sont bien séparés et le groupe B, ils sont bien ensemble. Si je vois ça avant, j'ai la tendance de dire que oui, ils sont séparés. Et si je vois les choses ensemble avant, j'ai la tendance de dire non, ils sont moins séparés. Alors, on peut faire des biais explicitement, et ça c'est aussi utilisé pour changer le comportement des gens, pour acheter plus de choses, pour les tricher, pour faire plein de choses, et aussi pour les aider. Alors, dernière catégorie, c'est l'intelligence, émotion et créativité. Et je vais essayer de aller. Bon, il faut comprendre que l'intelligence n'est pas une chose. Il y a plusieurs types d'intelligence. Par exemple, Howard Gardner, il a présenté au début 7, maintenant il y a plus. Mais il y a par exemple une différence entre quelqu'un qui peut faire le logique et mathématique. Là, ce n'est pas le même style que quelqu'un qui peut danser. Ça, c'est un danseur avec une bonne expression, un sportif, quelqu'un qui peut utiliser ça. Il y a des gens qui sont très bien à parler l'un avec l'autre, ils sont sociaux. Il y a des gens avec un bon sens spatial. Un pilote de chasse doit avoir un bon sens spatial. Il y a bien sûr les musiciens, les naturalistes qui peuvent apprécier le monde autour d'eux. Et il y a des gens qui sont bien verbales et... Alors, il y a des gens qui sont interpersonnels, entre les deux personnes. Alors, ce qu'il a observé, c'est que si on pense que tous les utilisateurs sont les mêmes, non, il y a des choses, des expertises diverses et variées, plein différentes. Il faut réfléchir à ça quand on crée les systèmes interactifs. Il y a aussi l'émotion. C'est beaucoup plus complexe que cette émotion universelle, mais en général, on peut dire qu'il y a des catégories d'émotions. Il y a joie, surprise, mépris, colère, tristesse, dégoût et peur. Si on est dans l'un des états et on regarde l'information qui arrive, ça peut changer quelque chose. Si je suis triste et je regarde des infos, ça peut diminuer ma performance sur une tâche. Alors, il faut comprendre aussi que les êtres humains ont des émotions et les émotions affectent notre interaction avec les systèmes. Et dernière chose, c'est qu'il y a différents types de créativité. Et encore une fois, ça c'est très très simple et c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on peut regarder par exemple la distance entre l'aspect cognitif, où on peut être créatif par construire quelque chose, et émotionnel, autre partie. Et on peut faire des choses dans une manière délibérée ou spontanée. Et Léonard de Vinci, c'était quelqu'un qui a travaillé beaucoup, il a vraiment fait l'anatomie, il a regardé les choses dans une manière très systématique et cognitive. Il a bien réfléchi comment construire, par exemple, l'homme avec les mains comme ça. Et il y a aussi Claude Monet, que j'ai montré avant. Ça, c'est quelqu'un, un peintre très délibéré. Il a fait une série de du paille, de haystack. Du paille. Dans les temps différents, il était très systématique pour comprendre et faire des choses, mais pour créer un effet émotionnel. Dans l'autre côté, on a l'action spontanée. Alors, il faut... James Watson, c'est avec Watson et Crick pour la découverte de l'hélix double de ADN. Et là, il a dit que ça est arrivé dans une rêve. Alors, il faut dire, il a bien préparé des choses pour comprendre. Si moi, j'ai une rêve de ça, ça ne va pas marcher. Mais pour lui, ça a marché parce que c'était bien préparé. Et c'était cet aspect cognitif, mais spontané. Et on a aussi des artistes comme Jackson Pollock qui fait des choses avec le mouvement et tout est émotionnel et tout est spontané. Alors on peut être créatif dans des formes différentes et ça veut dire si on va créer des systèmes interactifs, il faut donner des possibilités diverses et variées pour cette créativité. Et en fait, ce qu'on veut vraiment faire, c'est de créer cette idée de flux de Mihaly Csikszentmihalyi, qui a, alors il faut focaliser l'attention, éviter les distractions, avoir un but clair, pas trop facile, pas trop difficile, assurer un flux d'informations continu qui arrive, un feedback, garder le contrôle avec mes propres actions, et on peut perdre le sens du temps, peut-être plus accéléré, ralenti, mais tout ça. Alors, si je suis dans un système interactif qui me donne ce sens de flux, j'ai réussi comme concepteur. Alors, en conclusion, les capacités humaines sont riches et variées et le comportement humain est très, très, très complexe. On peut profiter beaucoup de la connaissance scientifique, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour concevoir les systèmes interactifs. Alors, il ne faut pas traiter les êtres humains comme les sommes de leurs limitations, qui est un peu la tendance de l'aspect scientifique, mais comme l'addition de leur potentiel intellectuel, physique et créatif. Et avec ça, je vais juste dire merci et je vais présenter Jim Holland qui va faire la deuxième partie de cette lecture. Il va parler en anglais et il va parler de comment penser avec les ordinateurs, les opportunités et les défis. Jim est un professeur à UC San Diego, c'est l'Université de Californie en San Diego, que j'ai rencontré beaucoup d'années, il y a, je ne veux pas dire combien d'années, mais c'est beaucoup. Et il a fait une thèse en mathématiques et psychologie et, avec, en Floride, et après il a fait un postdoc à Stanford. Après, il fait un parcours intéressant entre San Diego, il était directeur de MCC dans les années 80, où j'ai travaillé avec lui aussi, et il était à New Mexico, chef de département informatique, mais entre-temps, tu étais à Pell Corps pour faire la recherche. Et après, il est revenu à San Diego. Il dirige le centre de cognition, le Cognition Lab maintenant. Voilà. And so I'm going to just shift into English now and say thank you very much. And I will now do a shift to Jim Holland. Should I introduce him? Yeah. Well, okay. Yeah. All right. Thank you.